Europe 1.
Europe 1 13h.
Il est 13h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
13h 14h, Thomas Chenel.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette tranche d'informations que nous allons vivre ensemble, à commencer par le journal au sommaire aujourd'hui. Nous sommes 5 ans jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame et le pari de sa reconstruction est en passe d'être tenu. Sa réouverture au public est prévue le 8 décembre prochain. À J-100 des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron lève le tabou et annonce des plans B et C au Trocadéro, voire au Stade de France pour la cérémonie d'ouverture en cas de menace terroriste. Le Moyen-Orient est au bord du précipice, les mots du patron de l'ONU dans la foulée de la toute première attaque iranienne contre le territoire d'Israël. Les hostilités vont-elles s'arrêter là? Où sommes-nous au début de l'escalade? On en parle ensemble après le journal. Et avec vous au 01 80 20 39 21, vous avez le programme de cette heure d'information. 13h, la tendance météo, Michael Poteau.
Eh bien écoutez Thomas, il fait beau et venteux au sud avec des températures flirtant les 25 degrés. En revanche, c'est plus compliqué au nord avec une perturbation qui touche actuellement les côtes de la Manche avec des vents violents et qui descendra progressivement jusqu'au Massif central.
Notre-Dame de Paris, 5 ans après.
Journée spéciale sur Europe 1.
Nous sommes le 15 avril 2024, cela fait pile 5 ans que Notre-Dame de Paris a été ravagée par les flammes. 5 ans que nous sommes, 5 ans après, eh bien nous sommes dans la dernière ligne droite avec une date pour la réouverture, le 8 décembre prochain, journée spéciale sur Europe 1 dédiée à ceux qui ont sauvé la cathédrale. C'est le cas du général Jean-Claude Gallet, commandant des pompiers le soir du drame alors que les flammes menaçaient de faire s'effondrer tout l'édifice. Il avait fait le choix d'envoyer ses hommes dans l'une des tours en feu.
Au moment où on croit que c'est perdu, on voit les deux beffrois qui se dressent et les flammes, la charpente, elles étaient encore assez hautes, elles étaient à une vingtaine de mètres. Et les pompiers, on peut les distinguer pour deux choses. Une part avec le casque qui scintille et la lampe de casque, c'est la petite luciole. Je pense que c'est gagné parce que la détermination dont ils font preuve dans leur progression, en fait, elle est nettement perceptible, même à 100 mètres sur le parvis, parce qu'on le voit avec la position des casques. On ne voit pas de doute. Il y a le vide 45 mètres à gauche, ils ont 20 kilos de matériel, et il y a les flammes à... Je dis, moi, c'est bon, c'est gagné. Ça va passer juste, mais c'est gagné. Ce soir-là, je pense que chacun des intervenants était conscient de cette part de sacré et qu'elle était menacée. Et ils vont y arriver, sans disparition et sans blessés graves, ce qui relève du miracle quand même.
Le général Jean-Claude Gallet avec Caroline Baudry pour Europe 1. Alors, il y a 5 ans, il y a le courage des soldats du feu. Aujourd'hui, il y a la détermination des ouvriers. Antoine Bienvaux pour Europe 1, vous avez pu vous rendre sur le chantier de la cathédrale. D'ailleurs, vous nous emmenez à l'intérieur.
Oui, je vous emmène dans Notre-Dame, là où peu de gens ont eu le privilège de rentrer depuis 5 ans. Alors, vous l'entendez, le chantier bat toujours son plein à l'intérieur. Et ce qui frappe en entrant, c'est la blondeur des pierres restaurées par les compagnons. Leur éclat est plus blond qu'avant l'incendie. Résultat, la cathédrale semble plus lumineuse, comme l'explique Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques.
La cathédrale était quand même assez encrassée, même s'il y avait déjà eu du nettoyage. Et là, on va retrouver une cathédrale qui va avoir sa blondeur. Et donc, l'intérieur va paraître extrêmement lumineux par rapport à ce qu'on connaissait avant l'incendie. La cathédrale va resplendir d'un éclat qu'elle n'a pas connu depuis très longtemps.
Une cathédrale plus lumineuse que jamais, restaurée à l'identique jusque dans les moindres détails, grâce aussi au travail des ébénistes dont fait partie Loïs Pires. Depuis fin décembre, il restaure les stalles en bois, la rangée de sièges devant le grand autel.
On a récolté tous les morceaux qu'on a pu retrouver et du coup le gros du boulot, ça a été de remplacer ou de recoller chaque morceau qui était cassé. Et ensuite, on a un vernisseur et un sculpteur qui viennent redonner la forme initiale aux morceaux qu'on restaure.
Cet ébéniste, il n'a que 26 ans et il faut le souligner. Le chantier de Notre-Dame compte beaucoup de jeunes compagnons comme lui. Une jeunesse qui rend d'autant plus fier Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame.
Je suis admiratif. On a des savoir-faire et des compétences extraordinaires qui se déploient sur ce chantier et qui font vraiment honneur à la France. Et donc, on encourage vraiment les jeunes à se diriger vers ces métiers. Il y a du travail en France, on a un patrimoine extraordinaire. Et donc, il faut y penser, y songer.
Un savoir-faire qui a déjà permis de restaurer une très large partie du mobilier à l'intérieur de Notre-Dame, notamment le vœu de Louis XIII placé juste derrière l'autel, qui a déjà retrouvé toute sa splendeur.
Merci Antoine Bienvaux pour Europe 1. Emmanuel Macron, lui, s'est rendu sur un autre chantier ce matin, celui du Grand Palais, à 100 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques. Comme le veut la tradition, la flamme, elle, sera allumée demain dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce. Jean-Baptiste Marty, pour la première fois, le président reconnaît qu'en cas de menace terroriste, il y a bien des plans de secours pour la cérémonie d'ouverture.
Oui, un plan B, voire même un plan C.
On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voire qui rapatrierait dans le Stade de France.
Okay.
Parce que c'est ce qui se fait classiquement.
Emmanuel Macron reconnaît donc la résurgence de la menace illustrée par le passage du plan Vigipirate en urgence attentat depuis le 24 mars dernier à la suite de l'attentat de Moscou. Une menace également renforcée après l'attaque de drones de l'Iran sur Israël samedi soir. Mais malgré cela, le chef de l'État ne veut pas tomber dans la psychose.
Vous savez, c'est très important. Notre pays, malheureusement, depuis tant d'années, est frappé par le terrorisme. Et ce que veulent avant tout les terroristes, c'est nous empêcher de rêver. Et leur plus grande victoire, c'est ça.
326 000 spectateurs sont attendus le long de la Seine. Une cérémonie sous haute surveillance donc, mais jusqu'au dernier moment, Emmanuel Macron se réserve le droit de changer l'organisation de cette cérémonie.
Merci Jean-Baptiste Marty. Sur les menaces de grève de la CGT et de Force Ouvrière sous cette période, le chef de l'État dit sa confiance en les syndicats et leur esprit de responsabilité. Emmanuel Macron, qui, malgré le contexte international, l'assure, on va tout faire pour avoir une trêve olympique après l'attaque de l'Iran contre Israël ce week-end.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h05.
Justement, le cabinet de guerre israélien doit se réunir à nouveau en ce moment. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Benjamin Netanyahou, alors qu'on attend toujours la riposte d'Israël. Ce midi, sur place, l'alerte reste à un niveau très élevé. On retrouve à Tel Aviv notre envoyé spécial européen Wilfried de Villers. Wilfried, la question d'une riposte israélienne se pose. Qu'en pensent les habitants que vous avez rencontrés ?
Eh bien ici, à Tel Aviv, ils sont partagés sur cette question d'une éventuelle riposte. Ce qui est sûr, c'est que ces frappes iraniennes, ont particulièrement marqué les esprits parce que c'est la première fois que Téhéran mène une attaque depuis son sol contre Israël. C'est ce que m'a expliqué Sarah, une franco-israélienne installée à Tel Aviv depuis 3 ans.
Pour moi, c'était nouveau. C'est pas comme ce qui s'est passé avec Gaza. C'est l'Iran. On sait qu'ils ont plus de missiles, plus de forces de frappe. Et c'est ça qui fait plus peur.
La jeune femme, elle, n'est pas en faveur d'une riposte pour l'instant.
Je pense que ça peut vite amener à une escalade avec les autres pays. Ça peut vite s'embraser et faire un conflit plus régional, voire mondial.
C'est aussi ce que redoute une autre Israélienne qui espère que Jérusalem temporise pour l'instant au moins le temps des fêtes de la Pâque juive la semaine prochaine. Son amie Émilie, elle, estime qu'une contre-attaque est nécessaire.
On ne peut pas faire preuve de faiblesse de ces pays-là qui veulent notre mort, en fait. Donc on est obligé, effectivement, d'avoir des réponses, j'entends bien, militaires et appropriées. On est bien obligé de répliquer puisqu'on veut la paix, mais ils ne veulent pas la paix. On fait quoi ?
Reste que la crainte d'un embrasement régional et d'une guerre ouverte contre l'Iran est dans tous les esprits ici. Vous le disiez Thomas, le cabinet de guerre israélien se réunit à nouveau en ce moment. Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur la riposte envisagée contre Téhéran.
Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Ce matin, Emmanuel Macron a confirmé que la France avait procédé à des interceptions de missiles et de drones iraniens à la demande de la Jordanie. En France, après la stupeur de la classe politique qui a condamné l'attaque iranienne, mais condamné avec des nuances. Marine Le Pen juge inadmissible qu'Israël voit à nouveau son droit à la sécurité mis en cause. La candidate en position éligible sur la liste européenne de la France insoumise, Rima Hassan, renvoie, elle, dos à dos Iran et Israël lors d'un meeting hier à Montpellier. Alexis de La Fontaine, c'est une stratégie désormais assumée par les troupes de Jean-Luc Mélenchon. L'antisionisme fait partie de l'axe de campagne pour le 9 juin.
Oui, comme hier à Montpellier, pour chauffer la salle avant le meeting de Manon Aubry, les milliers de militants présents scandent des slogans anti-israéliens. Écoutez. « Kéfié sur la tête et drapeaux palestiniens sont visibles dans la salle. Sur scène, les intervenants condamnent à tour de rôle l'État israélien. Et certains députés insoumis vont encore plus loin, comme Hersi Yassoudeh qui accuse Israël d'avoir déclaré la guerre à l'Iran après les attaques de samedi soir. Et elle renvoie dos à dos, je cite, ces deux théocraties, alors qu'Israël est la seule démocratie laïque du Proche-Orient. Pour éviter que ce type de dérapage se produise dans sa région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand vient de demander au préfet du Nord d'interdire la conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan qui doit se tenir ce jeudi à l'Université de Lille.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, l'ouverture d'un procès historique aux États-Unis, celui de l'ancien président Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. On y revient juste après ça.
Et pour réagir, vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite pour Europe 1 13h avec Thomas Schnell.
Europe 1 13h.
13h, 14h, c'est Europe 1 13h avec Thomas Schnell. La suite de votre journal, Thomas.
Une nouvelle attaque au couteau ce matin à Sydney. La police australienne a arrêté l'homme présumé responsable de cette attaque dans une église. Cela 48 heures après une autre attaque au couteau dans un centre commercial qui avait fait 6 morts en Australie. Donald Trump, rattrapé par son passé, l'ex-président américain doit répondre de 34 chefs d'accusation devant un tribunal de New York dans l'affaire Stormy Daniels. Il lui est notamment reproché d'avoir détourné de l'argent pour acheter le silence de l'actrice X. Anne Toulouse, vous êtes notre correspondante Europe 1 à Washington. Anne, la composition d'un jury impartial s'annonce très compliquée.
Pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, ce matin, près de 500 personnes ont été convoquées au tribunal par tirage au sort et seulement 18 seront retenues, 12 jurés et 6 remplaçants. Beaucoup d'entre eux seront éliminés d'emblée d'après leur réponse au questionnaire de 7 pages qui leur a été remis. Ont-ils assisté à des réunions de campagne de Trump? Quelqu'un de leur famille a-t-il travaillé pour lui? Suivent-ils des sites pro ou anti-Trump sur les réseaux sociaux? L'un des critères qui d'habitude préside à la sélection d'un jury, ne pas avoir d'idées préconçues sur l'affaire, n'est pas d'actualité. Donald Trump a vainement essayé de ne pas être jugé sur son territoire où il y a 3 démocrates pour un républicain. Que ce soit dans la phase de sélection du jury ou dans la suite de la procédure, la politique sera omniprésente et on peut compter sur Donald Trump pour y contribuer. Il a concentré dans les prochaines semaines ses activités de campagne à New York et compte bien y faire du tribunal une tribune.
En France, combien seront-ils à présenter leur épaule aux pharmaciens? Une nouvelle campagne de vaccination pour le rappel contre le Covid-19. Campagne destinée aux plus âgés et aux plus à risque, elle démarre aujourd'hui. Les bruyants défilés de motards en colère n'auront rien changé. Le contrôle technique des deux roues entre en vigueur aujourd'hui. Moto, scooter, quad sont concernés. Barthélémy Philippe, ils devront faire vérifier l'état de leur véhicule tous les 3 ans.
Si vous faites partie des 4 millions de motards français, c'est un rendez-vous à noter, mais pas d'urgence. Le calendrier du contrôle technique est échelonné selon la date d'immatriculation de votre véhicule. Pour les deux roues les plus anciens mis en circulation avant le 15 avril 2017, vous avez jusqu'au 14 août. Pour les véhicules mis en circulation entre 2017 et 2019, ce sera 2025. Et dans les 6 mois avant le 5e anniversaire, pour ceux qui datent de 2022 et les plus récents, les vérifications sont les mêmes que pour une voiture, explique Laurent Palmier, président du réseau Sécuritest.
Tous les organes de sécurité, la signalisation, l'éclairage, l'état des pneumatiques.
Côté prix, le gouvernement avait évoqué une 50aine d'euros, mais les centres de contrôle sont libres de fixer leurs tarifs.
50 euros, c'est sans doute le tarif pour les scooters. Et puis, s'il faut autant de temps pour un contrôle moto que pour un véhicule léger, 80 ou 90 euros.
Enfin, sachez que le contrôle évoluera l'an prochain avec les émissions sonores et la vitesse pour détecter les véhicules débridés.
Le mois de mars a été particulièrement meurtrier sur les routes, plus 31% de décès. Les chiffres de la sécurité routière par rapport à l'an dernier témoignent d'une dégradation très importante. 254 Français sont morts sur les routes contre 194 en mars 2023. On compte notamment 3 usagers d'engins type trottinette et également 37 piétons tués. Le gouvernement souhaite encore simplifier la fiche de paye. Dans un projet de loi bientôt présenté en Conseil des ministres, Bercy veut réduire le nombre de lignes, clarifier la lecture des cotisations jugées obscures. Margot Faudéré, le gouvernement promet de faciliter la vie des salariés et des entreprises.
Oui, l'exécutif veut que la fiche de paye soit plus compréhensible. L'idée, c'est de ne garder que les principaux composants de la rémunération. Il veut aussi que la fiche de paye soit plus lisible, vous l'avez dit, en réduisant au maximum le nombre de lignes sur la fiche de paye, qui aujourd'hui sont devenues trop nombreuses, estime le député Renaissance Louis Marguerite, et co-auteur d'un rapport parlementaire sur la simplification.
Il y a effectivement parfois des bulletins de salaire qui sont à 40, 50 lignes en fonction de si vous avez eu des récupérations, les différents éléments des prélèvements sociaux. L'idée, c'est de revenir moins de 20, en tout cas moins de 10, peut-être moins de 5, avoir un nombre beaucoup plus limité pour qu'on ait une lecture plus lisible, pour qu'on se rende compte effectivement de ce que l'employeur nous verse.
Alors ça, ce sera la version générique du bulletin de salaire. Mais si un salarié a une question et souhaite obtenir le détail de sa rémunération, il pourra alors demander une version plus complète à son employeur. C'est le dernier principe, la transparence. Même si on a du mal à voir en quoi ça va simplifier la vie des gestionnaires de paye qui auront plus de travail. En tout cas, si le texte est adopté, les entreprises auront jusqu'au 1er janvier 2027 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.
Merci Margot. En football, cette soirée de folie hier soir à Lyon, en clôture de la 29e journée de Ligue 1, un temps mené 3-1 jusqu'à la 70e minute. L'OL s'est finalement imposé à domicile face au Dauphin, le Stade Brestois, score final 4-3, vous écoutez Europe 1. Il est 13h passé de 16 minutes. Comme chaque jour, on fait un point sur les marchés. Avec Claire Lemaître de boursier.com, Claire, le CAC repasse les 8000 points.
Oui, on est en hausse, plus 0,8%, 8078 points, avec quand même des investisseurs prudents, attentifs après l'attaque menée par l'Iran sur Israël. Signe de tension du côté des valeurs, la défense et l'aéronautique sont en hausse après cette attaque. Dassault Aviation gagne 2,4%, plus 1,7% pour Thales, plus 1% pour Airbus. Et on surveille aussi le pétrole, le Brent, la référence internationale est en léger repli sous les $90 le baril. Et il avait touché un pic de près de 6 mois vendredi. Du côté des autres places européennes, Francfort gagne 0,8%, repli en revanche pour Londres, moins 0,5%, et plus 0,8% à Paris pour le CAC 40, 8078 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. On vous retrouve ce soir pour un nouveau point sur les marchés. La météo, Mickaël Poteau, une perturbation arrive actuellement sur le nord de la France.
Et oui Thomas, elle s'étend de la Bretagne aux frontières belges avec un apport de pluie considérable et des vents violents de 70 à 80 km par heure sur les côtes de la Manche et jusqu'à 120 km par heure dans le nord. Prudence donc dans ce secteur, sachant que 3 départements sont placés en vigilance orange pour vent. La Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Cette perturbation va ensuite glisser cet après-midi, couvrant la France du Nord-Aquitaine jusqu'à l'Alsace, en passant par l'Île-de-France et la Bourgogne, laissant derrière elle un ciel plutôt mitigé entre éclaircies et averses. Et au sud de cette perturbation, tout va bien, le ciel est plaisant, mais vous ne serez pas épargné par le vent, une tramontane souffle entre 70 et 80 km par heure. Les températures, Thomas, eh bien, elles retrouvent leur valeur de saison entre 11 et 27 degrés, 11 à Boulogne-sur-Mer, 13 à Amiens, 15 à Bourges, 16 au Mans, à Reims et à Paris, 20 pour Annecy, 22 à Saint-Etienne, 23 à Toulon, 25 à Marseille et jusqu'à 27 pour Nîmes.
Il ne fallait pas trop s'habituer au retour des fortunes ce week-end. Hein. Merci Mickaël. Dans un instant, quelles sont les options d'Israël face à l'attaque iranienne? Faut-il craindre une escalade? Et comment la classe politique française prend position dans ce conflit? On en parle dans un instant sur Europe 1 avec l'essayiste Naïm M. Fadel et le chroniqueur politique Olivier Dartigol. Ils seront avec nous en studio.
C'est Europe 1 13h avec Thomas Schnell cette semaine. À tout de suite sur Europe 1.